Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés pour un nouveau délit d'opinion. Aujourd'hui, nous allons parler de l'État. L'État, parce que nous allons parler en fait de trois choses. D'une part, les retraites, d'autre part, le livret A, et encore, d'autre part, le fonds euro, parce que ce sont des véhicules de placement volontaire ou pas, pour ce qui est des retraites notamment, c'est plutôt involontaire, mais dont le dénominateur commun est l'État, que beaucoup de Français ont, et on va voir pourquoi ce n'est pas toujours forcément une très bonne chose. Tout d'abord, donc, trois
Je
Français.
vous arrête là,
Oui.
si vous me permettez une seconde.
Oui.
Ça n'est pas toujours une très bonne chose, vous devriez dire plutôt, c'est toujours une mauvaise chose.
Oui, peut-être. Je
Je veux dire, je connais peu d'exemples de.
me modérais volontairement pour
Non, non, mais il ne faut pas se
laisser
modérer
dévoiler le
volontairement
reste.
quand il s'agit, quand on parle d'un grand criminel.
Donc tout d'abord, 3 Français sur 4 détiennent un livret A, près de 8 Français sur 10 ont une assurance vie, presque toujours adossée d'ailleurs à un fonds en euros. L'intégralité de la population active cotise à un système de retraite par répartition qu'elle ne contrôle pas. Et donc, évidemment, le point commun de ces trois véhicules, c'est l'État. L'épargne d'un Français moyen, quand on additionne ses cotisations forcées et ses placements préférés, est massivement orientée vers le financement de l'État ou vers des produits dont l'État fixe lui-même le rendement. Cela donne une situation paradoxale. Les ménages français figurent parmi les plus gros épargnants d'Europe, mais leur épargne rapporte parmi les plus faibles rendements de la zone euro. L'objectif de cette émission est triple. D'une part, comprendre comment ces trois mécanismes fonctionnent réellement, comprendre pourquoi et comment l'État capte cette épargne et organise le niveau de rendement médiocre, et ensuite voir ce qu'on peut faire en tant qu'épargnant français pour s'en émanciper de façon simple, raisonnable et raisonnée.
Ah, j'ai une solution là.
Oui.
S'inscrire à l'université de l'épargne.
Absolument. Absolument. On va
Non,
peut-être. On peut commencer par là pour
Non, non, non,
présenter un
non,
peu
non,
le
non,
produit, ou on
non, non, non,
terminera
non, je
par
dis
là.
ça rigolant parce que
Mais
si
oui,
on a créé l'université de l'épargne, c'est bien parce qu'on s'est rendu compte
c'est pour cela.
que tout le monde était en train de se faire massacrer, que ce n'était pas normal.
Sinon, il n'y aurait pas besoin en soi, puisque
Bien sûr.
effectivement, les Français sont très très orientés, c'est des épargnants fous, mais là où les autres peuples, que ce soit, je sais pas, les Allemands, les Américains, quand ils ont un peu de côté, eux, ils mettent pas tant sur des formules style livret A, etc., leur équivalent national, ils prennent ou bien des obligations, ou bien des actions, il y en a qui se mettent sur les cryptos aussi. D'ailleurs, ma génération, même chez les Français, se mettent pas mal sur les cryptos, mais en revanche, nous, c'est directement bon bah livret A, fonds euro, etc. On va voir pourquoi c'est pas une très très bonne idée. Donc, quand vous mettez 100 euros sur votre livret A, déjà, votre banque n'a pas la main sur l'usage de ces fonds. Près de 60% partent à la Caisse des dépôts et consignations, qui les redistribue entre logement social, prêts aux collectivités locales et placements financiers, dont une partie en titres souverains. Le taux d'intérêt que vous percevez est fixé par le ministère de l'Économie sur proposition du gouverneur de la Banque de France et selon une formule que le pouvoir politique peut moduler à sa convenance et qu'il a modulée d'ailleurs récemment, on le verra un petit peu plus tard. Quand vous placez 100 euros sur le fonds euro de votre assurance vie, ces 100 euros sont investis par votre assureur dans un portefeuille où les obligations d'État représentent une part majeure. Selon les chiffres de l'ACPR de 2024, les obligations souveraines pèsent environ 20% des placements en transparence chez les assurances françaises et plus de 60% des fonds en euros sont composés d'obligations toutes catégories confondues, c'est-à-dire souveraines, financières, corporate. Quand vous cotisez à votre régime de retraite, l'argent ne vous appartient plus. C'est immédiatement reversé aux retraités d'aujourd'hui. Vous cotisez en revanche pour des droits, mais vos droits futurs ne sont pas un capital, c'est une promesse de l'État qui peut être modifiée par une simple loi, et ça l'a déjà été, hein, en l'espace de plusieurs décennies. Donc, trois canaux, une seule logique, l'État se sert de l'épargne, des cotisations des Français, etc., pour ses propres besoins. Tout d'abord, commençons par les retraites. Parce que les retraites, on en a parlé d'ailleurs il y a quelques mois, on avait fait en septembre une émission spéciale sur les retraites. Le système de retraite français est l'un des plus chers au monde. En 2023, les dépenses de retraite représentaient 14,6% du PIB français. La moyenne de l'Union européenne est à 12,3%. Donc seule l'Italie avec 16,3% et la Grèce avec 14,8% dépensent davantage par rapport à leur PIB. Donc c'est un quart du budget public français. C'est plus que les budgets de l'éducation et de la défense réunis. Donc parfois quand on dit le premier budget de l'État, c'est l'éducation ou c'est la défense ou c'est le le remboursement de la dette, qui aujourd'hui effectivement est assez élevé, bah en fait c'est quand même derrière les retraites. Il faut pas oublier non plus ça, c'est inclus dans la protection sociale. Et au passage, donc, si nous passions de 14,6% du PIB à 12,3%, c'est-à-dire la moyenne de l'Union, notre déficit annuel passerait de 5,1% pour l'année 2025 à 2,8%. Donc on règle toujours pas tout à fait le problème de la dette, mais enfin, ça ressemble déjà à autre chose.
Et les gens sont à 12,6 ou je sais pas combien, ouais, beaucoup, ouais. Parce qu'ils sont déjà à 65, 66, 67 ans sur leur retraite.
Oui.
Donc si vous voulez, il y a... Le simple fait que nous, on dise qu'il faut ramener la retraite à 60 ans et que d'autres, c'est plutôt à 67, ça nous colle immédiatement 5 ou 6 points de PIB dans les dents de charge.
C'est clair. En plus de ça, on a un rapport qualité-prix des retraites qui est assez médiocre. C'est-à-dire que là, j'ai un graphique qui est un comparatif entre certains pays européens. Vous avez le Portugal, les Pays-Bas, l'Espagne, le Luxembourg, l'Autriche, l'Italie, le Danemark, la France, l'UE dans son ensemble, la Suède, la Finlande, la Belgique, l'Allemagne et l'Irlande. Alors, je sais pas si on est les pires, mais enfin, on a quand même le deuxième système le plus cher en termes de cotisation, juste derrière l'Italie, alors qu'on est le septième système en termes d'efficacité derrière pour le taux de remplacement net, c'est-à-dire le pourcentage du salaire net moyen qui correspond derrière aux dépenses de retraite. Puisqu'on dépense 28% de notre salaire pour avoir à la fin 72% de taux de remplacement. Donc c'est assez cher pour pas grand-chose. On a d'autres pays quand même
qui font mieux. J'essaye de comprendre là.
Oui.
On vous pique 28% par mois ou par an,
ouais,
sur votre salaire,
ouais,
pour vous garantir que vous aurez 72% à la fin.
C'est ça, oui.
Mais si on investissait ces 28% dans la bourse, on aurait 120%.
Oui.
Donc, c'est non seulement, mais c'est pas efficace du tout, parce que...
Non, c'est pas efficace du tout.
On ferait mieux de supprimer des retraites et de dire aux gens, vous prenez vos 28% et on vous donne des avantages fiscaux pour que vous investissiez dans la bourse, et puis comme ça, ouais, comme ça, ben, le problème de retraite est résolu, quoi. Mmh,
complètement. Complètement. On a d'autres pays. Alors, si on prend par exemple le Portugal, là-bas, on cotise 23% du salaire, ce qui est pas rien non plus, mais à la fin, on a 99% de taux de remplacement, donc c'est beaucoup plus efficace. Mmh. Le système le plus efficace, c'est sans doute le système danois. Le Danemark, c'est 13% de cotisation, et à la fin, c'est 77% du salaire, donc on cotise beaucoup moins qu'en France, et à la fin, on a un taux de remplacement meilleur du salaire net moyen. Là-dessus, on a quand même, on fait partie des pires élèves. Hein,
donc, on paye plus et on touche moins.
Oui, exactement.
Vous travaillez plus et vous gagnez moins, quoi.
Ouais.
C'est pas ce qu'avait dit Sarkozy ? Ah non, il avait dit qu'il fallait
travailler moins. Plus pour gagner plus.
Oui.
Dans la théorie,
c'est de travailler moins pour gagner plus.
Ouais.
Et il y a personne qui dit qu'il faut travailler moins pour gagner moins.
Ouais. Ou travailler plus pour gagner moins.
Ça, c'est...
Effectivement, c'est un peu notre système à nous.
C'est Monsieur Mélenchon dès qu'il a ouvert les camps de concentration.
Et alors, on peut regarder d'ailleurs ce rendement annualisé du système de retraite. On a un petit graphique pour ça. Alors déjà, le COR a publié en juin 2025 ses dernières projections. Les chiffres sont pas terribles. Un salarié non cadre du privé né en 1955 partait avec un taux de remplacement, le rapport pension sur le dernier salaire, de 75% pour la génération 1985, né 30 ans plus tard, qui partira aux alentours de 2050. Ce taux tombera à 64,4%. Pour les cadres du privé, c'est encore plus brutal. 55% de remplacement pour la génération née en 1955 et 43% pour la génération née en 1985. Donc vous payez plus, c'est ce qu'on disait, et vous touchez moins. Aujourd'hui, on est à 1,7 cotisant pour un retraité contre 4 cotisants pour un retraité en 1960. Ça ne va pas s'améliorer. La démographie française vieillit. Les générations actives se réduisent. Le COR lui-même a alerté en février 2026 que ses propres projections reposaient sur des hypothèses démographiques qui ne correspondent déjà plus à la réalité observée, puisque les projections du COR, c'était 1,8% de taux de natalité. Aujourd'hui, on est à 1,6, ce qui sur le long terme fait une différence faramineuse. Donc vous pouvez voir sur ce graphique l'évolution du rapport démographique entre les cotisants et les pensionnés. Donc c'est la ligne rouge qui donne ce ratio. Donc on était à un top historique à la fin des années 70, début 80. C'est au moment d'ailleurs où nous avons fait un système de retraite extrêmement avantageux, la retraite à 60 ans, etc. Donc c'est
début quand les socialistes sont arrivés au pouvoir.
Exactement. Tout début des années Mitterrand, c'est le golden age de la retraite par répartition.
Et depuis, ça se pète la gueule.
Voilà, c'est vert. Donc le graphique s'arrête en 2012 à 2 actifs pour un retraité. Aujourd'hui, on est à 1,7. Et forcément, on peut imaginer que ça ne va pas s'améliorer. En tout cas, on ne peut pas imaginer que ça va s'améliorer, ça c'est sûr. Et l'implication directe derrière sur le taux de rendement annualisé, c'est celui-ci, sur le graphique suivant, toujours la même page du document. Donc ma génération, par exemple, née en 2000, est obligée de mettre presque 30% de son salaire dans un véhicule d'investissement obligatoire qui donne un rendement de 0,3% par an. Si vous étiez né en 1940, vous aviez à peu près 2,4% de rendement moyen annualisé, ce qui est déjà pas terrible, mais ce qui est beaucoup mieux par rapport à ce que je vais avoir. Donc voilà notre situation sur le système de retraite.
Maintenant, une seconde, 0,3, c'est très bas ça.
Ah oui, c'est extrêmement bas, oui.
Et qu'est-ce qui se passe si ça devient négatif?
Ah bah, ça risque de devenir négatif
ça
parce que...
Ça risque de devenir négatif, 24, non?
Oui, bah surtout, en fait, si on a un allongement de la durée de cotisation, et on peut imaginer un allongement de 2-3 ans dans les prochaines années, ça risque de devenir négatif.
Donc on force les gens à faire des investissements dans un machin où ils vont perdre de l'argent.
Oui. Et c'est pas 10% du salaire, c'est presque pas loin d'un tiers. C'est quand même colossal.
Ben oui, mais alors là, je m'excuse, je suis un vieil anarchiste là, mais ce serait pas mieux de leur rendre leur 30% et de leur donner un avantage fiscal jusqu'à ce qu'ils aient fait l'équivalent de la retraite qui était attendu? Ça coûterait pas cher, ça?
Ouais, carrément. Tout à
Donc
fait.
Donc on pourrait dire aux gens, bon ben votre retraite, et plus vous êtes proche de la retraite, plus l'avantage fiscal est important, à la limite, vous voyez ce que je veux dire. Et puis, si vous avez encore 20 ans, ben 20 ans, investir 30% de votre salaire, avec les conseils de l'université de l'épargne, ça ira très bien.
Oui.
Mais parce que faire du 0,3% par an, je peux. Je peux les aider, les gens. Hein.
On peut
vous aider, c'est pas un problème. Donc, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'on est en train d'aller dans une société, dans une solution étatique, donc contraint et forcé, donc c'est les gendarmes qui viennent vous chercher si vous ne le faites pas, quoi. De toute façon, vous n'avez pas le choix.
Ouais.
Et dont on sait qu'elle ne marche pas, alors que...
Oui, et qui prend de plus en plus de place, puisqu'elle est de plus en plus inefficace.
Ouais.
Donc la solution permanente, c'est... Bon, bah, les cotisations actuelles ne payent pas suffisamment les retraites, bon, bah, qu'est-ce qu'on va faire? On va augmenter les taux de cotisation. Ça ne fait qu'augmenter.
Oui. Ce qu'on pourrait faire, c'est dire aux gens, on vous donne un avantage fiscal, vous payez tout ce que vous mettrez de côté pour payer votre retraite, pour qu'elle arrive au niveau où elle devrait être, c'est-à-dire à peu près au niveau que votre niveau de vie ne baisse pas la retraite, ben jusque ce que vous atteignez ce niveau-là, ben tout ça, vous ne payez pas d'impôt sur l'argent que vous mettez en retraite.
Ouais.
Ça marcherait bien, ça.
On pourrait imaginer à la limite des cotisations minimales pour un minimum retraite, par exemple.
Mais c'est ce qu'ils ont en Angleterre. En Angleterre, moi, j'ai travaillé donc pendant 25 ans en Angleterre et je reçois une retraite tous les mois maintenant en France. Je suis très content d'ailleurs. Qui est la retraite minimum, quoi, qui est l'équivalent du SMIC.
Oui.
Ben voilà.
Oui. Voilà, donc ça c'est
donc
un bon
on vous
système.
Garantit une retraite comme ça, pauvre, et puis le reste du temps, le reste, on vous donne des avantages fiscaux pour que vous fassiez votre retraite, quoi.
Oui, parce que nous, on connaît quelque chose qui s'appelle le portefeuille de Brown, par exemple.
Voilà, qui vous donne du 4% réel.
Voilà, qui donne du 4% réel par an. Donc, c'est quand même quelque chose de vraiment très conservateur. Hein. C'est vraiment, on prend très très peu de risques pour le coup.
Et une volatilité très faible, mais c'est 15 fois le 0,3 qu'on va vous offrir, quoi.
Ouais.
Donc il suffirait qu'on donne aux gens un avantage fiscal pendant à peu près 10 ans pour qu'ils se fassent l'équivalent de ce qu'ils devraient avoir pour reprendre une retraite normale, quoi.
Mm-hmm. Ouais.
Ils sont couillons, quoi.
Ouais.
Alors, ils veulent... Non, je crois que c'est une façon de tenir les... Sans... Parce que les syndicats sont très engagés là-dedans, donc
oh oui, c'est clair,
ça leur donne une occasion de se passer à la télévision, voilà.
Ouais, sans doute.
Défendre les intérêts du pauvre peuple.
Donc, à la fin, je mets ce graphique aussi sur le taux, l'évolution du taux de cotisation, tant pour les cadres que pour les non-cadres. Donc, on voit que on atteint une sorte de plateau depuis 10 ans, mais enfin, ça augmente quand même légèrement. En tout cas, ça baisse pas et ça n'a jamais baissé d'ailleurs dans l'histoire des retraites françaises.
Alors, c'est très intéressant parce que là, mon cher frère qui vit en Suède, ou ma fille qui a un docteur qu'elle va voir souvent, qui est assez âgé, ben, il s'est passé le même phénomène en Suède et avec le docteur là. C'est-à-dire qu'ils continuent à travailler bien qu'ils aient atteint l'âge légal à la retraite, etc.
Ouais.
Ils pourraient prendre une retraite parce que d'abord il n'y a pas de remplaçant et puis parce qu'ils aiment ce qu'ils font, quoi.
Ouais.
Et à ce moment-là, il paye, il prend la retraite, il paye les 30%, mais il ne la touche pas. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas augmenter leurs droits à la retraite, puisqu'ils ont déjà passé leurs droits.
Ah, ça, c'est fascinant.
Donc, c'est-à-dire qu'on les pénalise.
Ok, ça c'est un truc que je ne savais pas.
On les pénalise. Non, ils n'ont pas le droit. Ils ont pas, ils payent les cotisations à la retraite, ils continuent à les payer.
Donc, le système de retraite repose aussi sur les retraités qui
continuent à
travailler. Là, ils sont bénéficiaires absolument nets.
Là, 100% de ce qu'ils payent, pouf, ça va aux autres. C'est bien.
Ouais. Ah donc, si ceux qui continuent de travailler au-delà de l'âge légal de la retraite s'arrêtaient de travailler du jour au lendemain, tous là, on aurait un déficit qui ferait le plafond. Ouais.
Bah oui.
Là, c'est fascinant.
Donc,
parce que ça, il y en a beaucoup, hein, surtout dans les professions libérales qui...
Bon, des avocats, des médecins, et
voilà,
tout,
exactement,
un paquet,
hein, ils ne s'arrêtent pas à 62 ans. Hein, ça, c'est...
Donc, 0,3%, c'est quand même... Et en plus, si je peux me permettre, si on donnait ces capitaux à des entreprises françaises qui sont toujours assoiffées de capitaux, ça permettrait de développer toute une infrastructure de paiement. Ce qui manque beaucoup en France, quand on le regarde, c'est qu'aux États-Unis, par exemple, vous avez des marchés des capitaux. Et,
ouais.
le premier, tout en bas, là, c'est ce qu'on appelle le venture capital. C'est-à-dire
ouais.
que les gars, vous êtes le neveu préféré d'une grande tante, vous lui dites que vous voulez faire... Un nouveau logiciel et elle vous finance parce qu'elle vous aime bien et qu'elle comprend rien, mais de toute façon je l'aime bien ce petit
ouais.
et donc, mais c'est très professionnalisé aux États-Unis, donc c'est le premier. Il y a à peu près une entreprise sur 10 qui réussit, 9 qui sautent. Mais celle qui réussit ensuite vous passez ensuite au leverage buyout, etc.
Oui.
où vous trouvez des capitaux longs, etc. Donc il faut d'abord le capital de départ et puis ensuite transformer l'essai en donnant des fonds propres importants. Et donc en France, il y a pas mal de gens comme la Caisse des dépôts, la BPI qui sont là pour la deuxième étape, mais il n'y a pas assez de personnes pour la première. Donc ça permettrait peut-être de créer une espèce de marché.
Bah, complètement.
De première. C'est ce qu'ils font en Suède où ils ont un fonds qui a des fonds dans lesquels vous pouvez souscrire, qui est un fonds d'État, un peu comme la Caisse des dépôts, mais qui fait que ça, qui cherchait des petites idées, comme une grosse BPI, quoi.
Ouais.
Et ben c'est. Ce qui est étonnant, c'est de voir, dans le fond, quand on regarde ça, d'un côté, une retraite, une capacité à épargner massive,
oui.
de l'autre côté, une offre d'épargne complètement nulle,
oui.
mais qui est obligatoire.
Oui, complètement.
C'est-à-dire qu'on vous dit, bon, ben,
en fait,
vous avez droit qu'à du hachis parmentier. Hein.
C'est colossal ce qu'on manque, parce que là, on peut percevoir le truc dans ce que moi, je vais percevoir pour ma retraite. Mais il y a aussi que... L'argent qu'on met dans un livret A, il va créer derrière considérablement moins de richesse que l'argent qu'on va mettre dans des actions ou dans des ventures capital, etc. Et ça va créer une structure, ça créerait une structure de capital.
Le livret A,
colossale.
C'est pour faire des transferts sociaux, quoi. C'est pas pour, par exemple, les logements sociaux.
Ouais.
C'est
à peu près un tiers du livret A qui
va. Oui, mais très bien,
les
logements sociaux,
ouais.
parfait, je suis très content. Mais je me suis laissé dire que la moitié des logements sociaux en Europe, c'était en France. Pourquoi on a des logements sociaux? Pourquoi on n'a pas. Pourquoi les gens normaux peuvent pas simplement, comme on le faisait autrefois en France, où ben, vous achetiez un appartement et vous le louiez, vous aviez pas. Je veux dire, il n'y a pas de raison que ce soit financé par une structure
ouais.
étatique. Qu'est-ce que ça veut dire un logement social? Ça veut dire un logement. Où il n'y a pas de Français dedans.
Et c'est un truc qui... Il y a quelques Français, mais enfin, c'est sûr que l'immigration pèse beaucoup sur le HLM,
donc,
hein,
donc,
c'est clair.
Donc, non, mais tout ça, c'est très curieux, parce que c'est des cercles qui se recoupent.
Oui, oui, puisque à la fin, en plus de ça, pourquoi nous on peut plus acheter, c'est parce qu'il y a 28% du salaire qui part aussi.
Qui part, il y a, et puis en plus, si vous voulez, vous avez, ça va pas dans les écoles. Pourquoi? Parce que il y a trop de mouvements sociaux dans lesquels on met des types qui parlent pas français, donc les écoles marchent plus. Enfin, je sais pas, il y a toute une série de systèmes qui se cloquent. Mm-hmm. Donc, on se dit, mais quand ce système marche pas, pourquoi on le casse pas?
Oui, parce que je sais pas, je crois que c'est presque religieux à ce point-là. C'est la retraite par répartition, c'est un système.
Mais ça a été fait par Pétain.
Oui, en plus, oui. Ouais.
Donc, si vous voulez, je sais pas, moi, il faudrait peut-être dire les partisans de la retraite par répartition sont tous des horribles pétainistes.
Oui. Mais même quelqu'un, un type qui a, je considère pas que ce soit le cas, mais un type qui a une étiquette libérale comme Édouard Philippe va dire des termes comme il faut sauver le système
Philippe
par répartition.
Édouard Philippe, libéral, vous régalez.
Non mais je dis pas que moi je le considère comme tel. C'est,
non mais il a jamais rien fait de libéral dans sa vie. D'abord, il a jamais travaillé. Il a jamais travaillé avec le système public.
Je suis d'accord, le peu de temps qu'il a été Premier ministre, il a été absolument désastreux.
Ça a été un désastre, non mais en plus, non mais quand on me dit que ce gars-là se dit libéral, à ce moment-là, moi je suis communiste. Quoi, faut pas
mais
déconner,
c'est dire l'incompréhension de ce que
non,
veut dire ce mot.
Tous, ils reviennent au mot de liberté, mais ils savent pas ce que ça veut dire, puisqu'ils l'ont jamais pratiqué. Pour les autres, ni pour eux. Non, mais...
Ah oui, pour eux un petit peu, mais pour les autres pas tellement. Donc on est dans ce système où les actifs cotisent de plus en plus longtemps aussi, et pour de moins en moins à la fin. Et ça permet
alors
aussi de faire très peu de choses.
Alors qu'il y aurait un système alternatif où ils pourraient cotiser la même chose, on leur donnerait un avantage fiscal à la place de leur prendre leur pognon, ils pourraient l'investir eux-mêmes, mais on leur donnerait un avantage fiscal, et ils se retrouveraient avec 4% par an s'ils faisaient le brand.
Oui.
À la place de 0,3%.
Oui.
Mais enfin, ils sont fous, quoi.
Mmh. Non, et puis,
je comprends pas de quoi on discute, moi.
Ça change complètement la... C'est pas un système modulaire, c'est-à-dire que ça me paraît complètement idiot de mettre le même pourcentage de son salaire dans des cotisations de retraite qu'on ait 25 ans, 35 ans, 45 ans ou 55 ans. Pour moi, évidemment, plutôt vers la fin d'une carrière, on
mais
peut cotiser
plus. Mais
en plus,
si je peux me permettre, c'est... Quand vous êtes jeune, bon, vous faites des tas de choses, vous éduquez, par exemple, ce qui est une forme d'épargne, et puis ensuite vous travaillez. Bon. Mais en mettant 35, 40 ans et 60 ans, c'est là où vous pouvez épargner le plus.
Uh-huh.
Et c'est là où vous devriez avoir les avantages fiscaux les plus importants pour votre épargne. Et c'est vous qui décidez du moment où vous décidez d'arrêter d'épargner, je veux dire. C'est l'histoire de dire, vous allez mettre 30% de votre salaire jusqu'à la fin des temps, c'est un impôt. Mmh.
Et au passage, d'ailleurs, on a toujours ce débat. C'est d'ailleurs le seul paramètre sur lequel on réfléchit sur le débat des retraites, c'est l'âge de départ à chaque fois. Alors, je dis pas que ça n'a aucune importance, mais enfin, ça devrait pas du tout être le seul paramètre. Et si on investissait nos épargnes retraites sur même, je dis même pas comme le disent certains sur un ETF S&P 500 ou MSCI World, c'est pas ça du tout. Mais même juste sur un véhicule type portefeuille Brown, donc avec 4% réel, voilà, que l'État pourrait totalement faire. C'est vraiment pas compliqué à gérer pour le coup.
Non,
hein, c'est 25. Avec ça, en fait, on pourrait avoir une retraite tout à fait décente, mais avant d'avoir 67 ans. Mais même peut-être avant d'avoir 60 ans.
Et donc à ce moment-là, on part si on a envie.
On part, il y en aura qui auront une bonne caisse de retraite à 58 ans, et s'ils partent, ça pose strictement aucun problème. Ce sera un capital qu'ils auront constitué eux-mêmes, ils l'auront volé à personne, et le système fonctionne parfaitement comme ça.
Et
ça s'imagine complètement.
C'est-à-dire qu'il y a une espèce de refus de principe de laisser les gens prendre les décisions qui les concernent.
Oui.
C'est-à-dire que non, il faut que, comme disait une vieille tante que j'avais, l'embêtant avec les Français, c'est qu'ils veulent tous égaux, tous charbonniers.
Mmh.
C'est-à-dire que s'il y en a qui investissent plus intelligemment leur épargne que les autres, ça va créer des inégalités, ce qui est insupportable.
Oui. Donc tout le monde logé à la même
enseigne. Donc on est soumis à des crétins qui ont comme ambition totale de créer l'égalité entre tout le monde.
Mm-hmm.
Comme chacun le sait, est un profil diabolique. L'égalité, mm-hmm. La liberté, c'est un projet de Dieu. L'égalité, c'est un projet du diable.
Mm-hmm.
Parce qu'en enfer, on est tous égaux. Hein.
Mm-hmm. Mais c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens, même de ma génération, qui savent très bien que, bon, en fait, on part avec cette pénalisation du 28% qui part en cotisation, mais quelque part, on s'en fiche presque, et on essaye de voir sur le surplus, de voir ce qu'on peut épargner en plus,
Oui.
aussi dans la perspective de la retraite. C'est-à-dire, moi, je vais essayer de faire avec considérablement moins de moyens que le système de retraite par répartition, je vais essayer de faire beaucoup mieux.
Ben oui, pour essayer
Et
de
c'est pas
compenser
difficile.
l'inefficacité
Tout à
du
fait,
système.
c'est ça.
Mais c'est très curieux de voir un système, dans le fond, vous avez fait un petit peu de travail là-dessus, mais il faut 5 minutes pour que la personne de l'intelligence moyenne se rende compte que ça marche pas du tout, quoi.
Oui.
Et qu'en plus, ça peut aller qu'en se détériorant.
Oui.
Non seulement ça marche pas, mais ça va aller de pire en pire.
C'est pour ça d'ailleurs qu'on parle à chaque fois de repousser l'âge de départ à la retraite. C'est parce que le système est dysfonctionnel et qu'à chaque fois, il faut essayer de faire bouger les paramètres, faire en sorte
Vous savez
qu'on
ce qu'on
soit
disait,
retraité de moins en moins longtemps, qu'on
qu'on
travaille de plus
disait
en
en
plus,
Afrique ou
etc.
partout quand j'étais jeune, hein, même en France, c'est la retraite, c'est du pipeau, ce qui fera la retraite, c'est vos enfants. Donc, ce qu'on est en train de découvrir, c'est que si on n'a pas fait d'enfants, il n'y a pas de système de retraite qui fonctionne, quoi.
Bah oui, c'est clair. C'est pour ça le système de retraite par répartition, c'est pas toujours une mauvaise idée. Quand vous avez une forte croissance démographique, c'est pas une
Mais
mauvaise idée.
on l'a pris au départ, Pétain l'a pris au départ, parce que la retraite, l'épargne que les gens avaient fait tout seuls dans les années 38-40, ben elle avait été détruite par la guerre.
Ouais.
Donc ça valait plus rien. Donc il fallait servir des retraites à des gens qui arrivaient à la retraite. Et donc la seule façon, c'était d'aller piquer à ceux qui travaillaient pour le
Ouais.
donner. Mais ça aurait dû être un truc qu'on faisait pendant 5, 6, 7 ans, puis sortir doucement pour éviter de.
Ouais.
Rien du tout, on en a fait une espèce de vache sacrée.
Ouais, complètement. Donc, on a eu cinq grandes réformes des retraites depuis 93, dont la plus récente en 2023, qui ont successivement reculé l'âge de départ, allongé la durée de cotisation, modifié les modes de calcul, à chaque fois plutôt en défaveur des actifs. La garantie de la République sur votre future pension a été retouchée tous les 6 ou 7 ans en moyenne. Vous achetez aujourd'hui un produit dont les termes contractuels seront révisés à plusieurs reprises afin que vous ne puissiez toucher la prestation finale.
Ben, c'est ce que je dis toujours. Ou vous achetez de la propriété, ou vous achetez des contrats.
Ouais.
Là, vous avez un contrat qu'on vous force à acheter avec le souverain qui va vous enfler parce
Oui.
qu'il ne peut pas vous payer. Donc, vous
Ouais.
savez en l'achetant qu'il va vous enfler.
Ouais. Et le contrat, il n'y a qu'une seule des deux parties qui peut le modifier.
Voilà.
C'est
Vous pouvez le modifier à condition de vous barrer de France.
voilà, c'est ça. C'est un peu le seul truc. Ensuite, nous avons le livret A, c'est l'instrument d'épargne préféré des Français. À la fin 2025, l'encours total avait atteint un record de 450 milliards d'euros. Aujourd'hui, en avril 2026, le taux du livret A est à 1,5%. Il a été à 0,5% de 2020 à 2022, brièvement à 3% en 2023 quand l'inflation a explosé, qu'elle était à 7%. Il redescend depuis. La question simple, c'est est-ce que ce taux protège simplement votre pouvoir d'achat, je ne parle même pas de devenir riche, là, n'en parlons même pas, mais c'est simplement est-ce que ça protège votre pouvoir d'achat? Et la réponse, c'est bah, pas forcément.
Non, parce qu'on est aux alentours de 2 d'inflation, et en plus les produits de première nécessité qui sont ceux que le retraité aura besoin d'acheter, la nourriture, le loyer et l'énergie, montent de beaucoup plus de 2% par an. Donc vous savez que vous allez perdre du fric.
Oui.
Encore une fois, vous prêtez de l'argent à l'État pour qu'il puisse faire des logements sociaux pour les gens qui n'ont pas cotisé à la retraite.
Ouais. Entre 2017 et 2019, le rendement réel du livret A, c'est-à-dire le taux nominal du livret A moins l'inflation, a été négatif. En 2022 et 2023, la dégringolade a été encore plus spectaculaire, un rendement réel de moins 3,6% en 2022 et moins 2,7% en 2023. En 2 ans, un épargnant détenant le plafond de 22 950 euros a vu son pouvoir d'achat amputé d'environ 1 450 euros. Le livret A a même atteint en 2022, son taux réel le plus bas depuis 1982. La désinflation de 2024-2025 a marginalement redressé la barre, mais sur l'horizon 2015-2025, la rentabilité réelle moyenne est proche de zéro, voire légèrement négative. C'est l'État qui fixe le taux et il fait d'ailleurs ce qu'il veut de la formule. Je vous en parlais au début de cette émission. Officiellement, il existe une formule de calcul, c'est-à-dire la moyenne entre l'inflation et les taux courts. Mais le gouvernement peut et a souvent choisi de ne pas l'appliquer. En 2023, alors que la formule aurait dû conduire à un taux supérieur à 4%, le gouvernement l'a plafonné à 3%, officiellement pour préserver le financement du logement social et limiter la charge sur les bilans bancaires. En pratique, pour limiter le coût de la rémunération de cette épargne pour l'ensemble du circuit administré.
Encore une fois, c'est ce qu'on découvre, comme on découvre, etc., c'est que le but numéro un du gouvernement, c'est pas d'assurer à l'épargnant, mais brave petite fourmi, une rentabilité sans risque et convenable de son épargne.
Oui, oui.
C'est qu'on vous explique que c'est pour les logements sociaux, l'éducation des grenouilles à trois pattes et à grenivelé et à ventre bleu. Mmh. Enfin, je veux dire, ils vous mettent toute une série. La seule objectif de quelque chose comme le livret A, ça devrait être de donner du 2% réel aux Français par an, quoi qu'il se passe.
Oui, quoi qu'il se passe, oui.
Et ben, comme ça, puis ensuite, l'État, ça lui de se démerder pour gagner de l'argent au-dessus de 2%, mais pas du tout. Là, c'est un impôt qu'on met sur votre capital de 1 ou 2%, et pendant que vous l'avez là, vous ne l'avez pas investi ailleurs. C'est-à-dire que non seulement on vous pique 2%, mais vous avez aussi... Vous perdez aussi la rentabilité que vous pourriez avoir si vous sortiez de cette saloperie.
Il y a perd et il y a le coût d'opportunité.
Il y a un coût d'opportunité. Donc, si vous prenez par rapport au portefeuille Brand, 4% réel, vous perdez moins 1, ça fait que ça vous coûte 5% par an.
Oui.
D'être dans le livret A, quoi.
Ouais, tout à fait. Alors, peut-être parenthèse pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est que le portefeuille Brown.
Oui.
Qu'est-ce que c'est?
Bon, le portefeuille Brown, c'est un Américain qui a découvert ça. En disant, vous comprenez rien à l'économie, vous comprenez rien au marché financier, c'est bien triste, mon pauvre monsieur, mais vous n'êtes pas les seuls. Mmh. Donc, qu'est-ce que vous pouvez acheter? Il y a quatre produits que vous pouvez acheter, de l'or, du cash, des obligations à 10 ans, ou des actions du pays. Donc, si vous mettez un quart dans chacun des quatre, là, un quart, un quart, un quart, et que vous rebalancez ça une fois par an, pour être toujours un quart, un quart, un quart, vous faites 4% réel avec une volatilité très faible.
Ouais.
C'est-à-dire que, ben vraiment, là, ça bouge très peu. Quoi. Mmh. C'est comme vous avez acheté. Vous êtes fait en quelque sorte une espèce d'obligation. Non, bref, ça marche très bien. On a montré toutes les études dans l'université de l'épargne, mais ça marche très bien. Et ça marche dans tous les pays. 4% par an, partout. C'est à peu près. Donc c'est une constante du système capitaliste.
C'est ça. Entre 3,5 et 5% par an réel.
Réel, ça dépend si on prend quand on est pour une période plus ou moins favorable. Même au Japon, où le marché des actions a baissé pendant 25 ans, ça fait 4% réel parce que les obligations sont montées. Bref. Mmh. L'or est monté. Donc, vous faites ça. Donc, c'est pas difficile du tout à faire. Hein. Vous avez à passer un ordre par an.
Oui.
4%. Donc, si on prend 1% là-dessus, 4%, ça veut dire à 5 ans. Ça veut dire que à 5 ans, 72 que divise 5, ça doit faire 14. C'est-à-dire qu'en 14 ans, vous aurez perdu de la moitié de votre pouvoir d'achat potentiel. Mmh. Si vous avez mis 100, vous auriez pu avoir 200 et vous allez avoir 50.
Ouais.
Mais vous êtes fou. Mais qu'est-ce que vous attendez? Pourquoi vous restez dans ces merdes?
Ouais.
Dans ce produit dégueulasse que le livret A.
Heureusement que c'est plafonné à 22 000 euros. Sinon, il y aurait des couillons qui mettraient beaucoup plus de temps.
Mais c'est complètement incompréhensible parce que vraiment, c'est pas difficile de faire 4% réel par an avec un portefeuille, tout ça. Un quart le marché des actions français, un quart le 10 ans français, un quart l'or et un quart le cash.
Ouais.
Mais enfin, je veux dire, et vous rebalancez, c'est vraiment. Il faudrait presque faire un ETF là-dessus pour que les gens puissent l'acheter tranquillement.
Oui, complètement. Ça pourrait même, dans un état normal, être géré par l'État, puisque c'est pas compliqué à faire.
Si on avait un gouvernement qui avait un soin, le gouvernement mettrait un ETF comme ça, et prendrait le pognon et l'investirait lui-même. Il pourrait peut-être faire un peu mieux, j'en sais rien. Mais là, c'est simplement du vol à la tire. Quoi.
Ouais. En plus de ça, au passage, un Brown français, du coup, ça inclurait 25% d'obligations françaises. Mmh. Donc forcément, par les rebalancements, c'est-à-dire dès que l'or monte, dès que les actions montent, etc., ça veut dire vous rebalancez un peu plus sur les obligations. Et ça ferait une pression à la baisse sur les taux longs français.
Et puis le gouvernement pourrait pas gaspiller de l'argent qu'il va acheter à un prix qui est tout à fait. Il serait obligé de bien investir pour couvrir les 4%. D'accord. Ouais. Non, mais bref.
Et donc, on voit ensuite sur l'infographie suivante, donc comment sont répartis 100 euros sur un livret A à la fin 2023. C'est-à-dire, déjà, il y a 60 euros qui remontent directement à la caisse des dépôts et des consignations. Sur ces 60 euros, il y a 26 euros qui vont aller pour le logement social.
Encore?
Ouais. Il y a 34 euros qui vont aller à la caisse des dépôts et des consignations et qui servent à des financements et des placements diversifiés, dont une partie indirectement à la dette publique. Et les 40 euros restants sont conservés au bilan des banques et servent à leurs prêts aux PME et pour leur portefeuille propre.
Ben voyons.
Ensuite, nous avons... je voudrais juste faire une petite parenthèse sur le livret A à la fin, une parenthèse légèrement positive, c'est-à-dire que le livret A, c'est pas du tout un bon fonds d'investissement. En revanche, ça peut être un fonds d'urgence correct pour de l'épargne de précaution. C'est-à-dire que c'est
La boîte à chaussures. Quoi.
Voilà, c'est la boîte à chaussures. Donc, c'est 3 à 6 mois à peu près de dépenses courantes.
Voilà.
Là, vous pouvez le laisser sur livret A. Au-delà, c'est vraiment un piège à con. Ça sert vraiment plus à rien. Donc, voilà. Le fonds en euros, ensuite, là, vous êtes le grand prêteur involontaire de l'État, puisque le fonds en euros, c'est le placement préféré des Français qui ont un peu plus que leur livret A. Là, pour le coup, vous pouvez mettre beaucoup plus que 22 000 euros. La poche garantie de l'assurance vie, celle où le capital ne peut pas baisser, en théorie. La paix de l'esprit, c'est aussi structurellement l'un des principaux financeurs de la dette publique française. Le rendement nominal récent est en hausse, mais reste quand même assez mince sur ces fonds euros. Selon la SCPR, le rendement moyen en 2024 du fonds euro s'établit à 2,6%. Pour 2025, il est estimé à 2,65%, youpi. Une fois les prélèvements sociaux appliqués, c'est-à-dire 17,2%. D'ailleurs, rectification, c'est récemment passé à 18,6%. Donc c'est un peu moins bien pour vous. On tombe à environ 2,2% net, et donc avec une inflation à 1,1%, le rendement réel moyen est proche de 1%. Donc c'est le meilleur niveau au passage depuis 10 ans, mais là on a quand même une photo qui est assez peu flatteuse, parce qu'un rendement de 1% c'est quand même pas terrible. Donc sur la décennie écoulée, le fonds en euros a quand même appauvri ses détenteurs. Sur la période 2018-2023 par exemple, le rendement réel net moyen des fonds en euros a été négatif. En 2022, il a chuté à moins 3,6%, en 2023 à moins 2,7%. Ce sont d'ailleurs les deux pires années depuis le début des années 80. Les épargnants français se sont littéralement appauvris en plaçant sur le placement réputé justement sans risque. Et même sur la période 2010-2024, la performance réelle nette est faible, voire légèrement négative selon le contrat. Donc là aussi, c'est de la merde.
C'est tout à fait de la merde. Donc, là aussi, il faut faire très attention au vocabulaire. Je veux dire, c'est quand le gouvernement vous dit que c'est un placement sans risque,
ouais.
Il faut que vous compreniez que c'est un placement sans risque pour l'État, mais que pour vous, c'est un placement extraordinairement risqué. Parce que vous êtes, quand je regarde ça, je me dis, ça fait, vous êtes à peu près à 100% certain que vous allez perdre. Et que de l'autre côté, comme c'est un jeu à somme nulle, c'est l'État qui va gagner. Donc un placement sans risque, et donc l'État va vous donner des avantages fiscaux pour acheter une saloperie. Si c'était un bon placement, sur les obligations émises par la Confédération helvétique, à ma connaissance, il n'y a pas d'avantage fiscal.
Oui.
Parce que c'est un bon placement. Donc, personne n'a besoin d'un avantage fiscal pour acheter ce truc-là. Donc, vous avez deux caractéristiques. Si on définit ça comme risque, sans risque, et qu'on dit qu'en plus, on vous donne un avantage fiscal...
Il y a un loup quelque part.
Il y a deux loups.
Oui.
Les deux mots devraient faire sonner toutes vos petites clochettes en disant « c'est sûrement une merde hein. ».
Oui.
Et donc, encore une fois, la seule... pression que les Français peuvent mettre sur leur gouvernement, puisqu'ils font pas attention à ce qu'on vote, c'est quand ils votent avec leur pognon. Donc le jour où les Français refuseront de prêter leur argent à un État qui fait n'importe quoi, à ce moment-là, le personnel de l'État commencera à faire attention aux Français, parce qu'il faudra qu'ils arrêtent de piller l'argent des épargnants. Mais en achetant ces placements, soi-disant sans risque, vous trahissez la France.
Ouais.
Et vous favorisez les salopards qui nous gouvernent.
C'est ça. Enfin, vous trahissez la France, mais vous servez l'État. Donc, voilà. Pour être un petit peu plus précis sur cette question de fonds euros, un fonds en euros, c'est en réalité une enveloppe qui contient principalement des obligations. Selon la CPR, avec son rapport numéro 173 sur la situation des assureurs, fin 2024, les obligations souveraines représentent environ 19,8% des placements après mise en transparence chez les assureurs français. La composition obligataire totale souveraine plus financière plus corporate dépasse 60 à 75% du fonds en euros pour la majorité des contrats. Le rendement que vous percevez dépend donc directement des taux servis par les États et les grandes entreprises emprunteuses. Quand les banques centrales ont écrasé leurs taux pour faciliter le financement des États surendettés entre 2014 et 2022, votre rendement de fonds en euros s'est effondré mécaniquement. Vous étiez prêteur par procuration à des emprunteurs qui ne voulaient plus payer.
Qui ne pouvaient plus payer aussi.
Les compagnies d'assurance françaises détenaient fin 2024 environ 9,8% de la dette française négociable, soit environ 261 milliards d'euros. Ce pourcentage a pas mal baissé puisque c'était 40% en 2000, 20% en 2009, parce que les assureurs diversifient. Mais en valeur absolue, les assureurs restent un acheteur majeur des OAT françaises et les fonds en euros restent l'un des piliers du financement du déficit public français. Et donc à chaque euro placé en fonds euros, vous contribuez à la marge au financement de l'État qui pèsera plus tard sur vous par sa fiscalité. Et je voudrais parler d'un fait supplémentaire, c'est la loi Sapin 2 qui a été votée en 2016, puisque cette loi permet au Haut Conseil de Stabilité Financière de bloquer les retraits sur les contrats d'assurance vie pour une durée pouvant aller jusqu'à 6 mois consécutifs en cas de menace grave et caractérisée pour la stabilité du système financier, ce qui peut vouloir dire une cessation de paiement par exemple de la part de la France sur les intérêts de sa dette. La disposition n'a pour l'instant jamais été activée, mais elle existe. C'est une épée de Damoclès, rarement évoquée d'ailleurs auprès des épargnants. À elle seule, elle illustre la dépendance au pouvoir politique de ce que l'on présente comme une épargne sécurisée.
Ben, vous trouvez toujours la même chose, si vous voulez. L'épargne sans risque, c'est celle que vous avez, si j'ose dire, à votre nom, sur une plateforme qui n'est pas contrôlée par l'État français. Hein, mmh. Voilà. Donc ça, c'est une épargne sans risque. Vous savez qu'elle est. Mais dès le moment où vous dites à l'État, vous allez épargner pour moi, il va le faire et il va automatiquement acheter des machins qui favorisent l'État. Mmh. Donc vous êtes là en contradiction totale. Avec vos objectifs, c'est de vous assurer une fin de vie aussi heureuse que possible, alors que l'État, tout ce qu'il essaye de faire, c'est de gagner les élections la semaine prochaine, en dépensant du pognon qui n'est pas à lui, c'est-à-dire en dépensant votre pognon n'importe comment, dans l'histoire de... Donc, encore une fois, la seule sanction, si vous en avez marre de ce gouvernement, ce qui est le cas d'approuver 80% des Français, ben simplement, vous cessez d'acheter leurs produits financiers, et automatiquement, à ce moment-là, le gouvernement sera obligé de se coucher. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous avez un moyen, c'est de dire au gouvernement, bah, écoute, tu fais tellement de conneries avec mon fric que tu n'as plus le droit.
Je me casse, oui.
Je me casse.
Le gouvernement ne mérite pas mon pognon. C'est juste, ce n'est pas suffisamment rémunéré par rapport au risque réel.
Et bien, pas non seulement au risque que je prends, mais aussi au fait que j'ai fait un sacrifice de ne pas consommer tout ce que j'avais, je l'ai mis de côté, et je l'ai mis de côté. Vous savez, l'épargne, ça sert à quoi ? Ça sert à vous préparer à l'incertitude du futur. Mm-hmm. Mais là, si vous dites à l'État de vous protéger contre cette incertitude du futur, vous savez, sur les chiffres actuels, qu'il ne peut pas. Donc, pourquoi vous lui confiez votre truc ?
Ouais. Non, il y a beaucoup de gens qui le font par défaut. Moi, par exemple, j'avais une assurance vie il y a quelques années, parce que quand j'étais mineur, ma mère m'a fait faire une assurance vie. Bon, voilà, très bien. Mais forcément, par défaut, en fait, on va vous la mettre en fonds euros. Donc, vous, si vous regardez pas, si vous dites pas à votre assureur ce que vous voulez, vous êtes, mais certain d'avoir des fonds euros sur votre assurance vie. Parfois, la majorité de votre assurance vie sera en fonds euros. Donc c'est colossal.
Il y a 2000 milliards d'euros, je crois, dans l'assurance vie.
Oui, non, mais c'est un truc colossal, l'assurance vie, en France. C'est un truc complètement colossal. Et il y a un truc qui s'appelle le compte-titres ordinaire, dont on parle beaucoup moins. Le compte-titres ordinaire, c'est vous ouvrez un compte sur un courtier, il y a des banques aussi qui le permettent, et vous achetez ce que vous voulez. Vous n'avez pas d'avantage fiscal, vous n'avez pas tout ça, mais vous achetez du air liquide, vous achetez de l'or, vous achetez n'importe quoi, vous achetez ce que vous voulez.
Voilà.
Voilà, et nous, c'est avec cela principalement qu'on fonctionne à l'Université de l'Épargne. Alors, il y a le PEA aussi qui est pas trop mal. Le PEA, c'est vous pouvez acheter des actions ou des fonds d'entreprises françaises ou européennes. Et là-dessus, il y a des trucs pas mal. Il y a un avantage fiscal puisque vous ne payez que les cotisations, c'est-à-dire 18,6% et non pas l'ensemble 31,4%, la flat tax que vous payez sur le compte-titres ordinaire, sur les plus-values et les dividendes et les intérêts du compte-titres ordinaire. Donc, ça reste une poche intéressante, mais le CTO, le compte-titres ordinaire, c'est objectivement ce qu'il y a de mieux parce que c'est là où vous avez le plus de liberté. Bon, voilà, vous n'avez pas les avantages fiscaux, etc. Mais enfin, qu'est-ce qu'on s'en fiche d'avoir un avantage fiscal sur 1% de rendement?
Non, très franchement. Sur une perte.
Et voire sur une perte en termes réels.
Voilà, youpi, ma perte est plus faible que ce à quoi je m'attendais. Voilà, donc j'ai perdu du fric, mais moins que ce.
Je préfère faire, même soyons conservateurs, je préfère faire 8% par an sans avantage fiscal que zéro, voire négatif avec un avantage fiscal.
Ouais, hein, tout à fait exact.
Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai envie de dire s'abonner à l'Université de l'Épargne.
Ça va sans dire, mais voilà. L'aimable lecteur l'aura fait de lui-même. Mais surtout, il faut que vous réfléchissiez, que vous preniez la tête dans les mains et que vous réfléchissiez, quel que soit votre âge, à la façon dont vous allez organiser votre futur. Parce qu'une partie importante de votre futur, c'est quand même la période où vous ne travaillerez plus.
Oui.
Et le gouvernement dit sans arrêt « je vous couvre pour cette période », oh, il ne vous couvre rien du tout. Donc il faut, mais vraiment il faut que vous preniez avec votre famille, etc., votre conjoint, la tête dans les mains en disant « bon, mais qu'est-ce qui va se passer le jour où je suis à la retraite ?»
Ouais.
« Et est-ce que ma femme aura par exemple une pension de réversion si je claque ?»
Ouais.
Et tout ça, c'est, il faut presque faire un audit de votre futur. Et une fois que vous aurez fait l'audit de votre futur, trouvez des solutions, dont l'une d'entre elles, c'est de le dire, je vais le faire moi-même, et pour ça, il faut apprendre. Donc, il faut que vous vous abonniez à quelqu'un comme l'Université de l'Épargne. Mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est que vous preniez conscience de ce qui vous attend.
Ouais. Donc voilà, sortez de cette logique de l'État. Je pense que en fait, on sort un peu d'un cycle économique qui a commencé avec les 30 Glorieuses, où globalement, si vous faisiez confiance à peu près à l'État, tout se passait bien. Il suffit de mettre, il suffit de cotiser pour sa retraite, d'acheter de la pierre, et vous inquiétez pas, ça va bien se passer à la fin de vos jours. Ce qui a été vrai pendant quelques décennies, mais aujourd'hui, clairement, ça ne l'est plus. Et ma génération
si je peux utiliser une image ici, autrefois, quand j'étais jeune, je pouvais aller au lycée ou à l'école de jésuites, c'était pareil. Hein. Les deux niveaux étaient à peu près équivalents, c'était très bien, quoi. Donc, selon le poste où mon père était nommé, j'allais chez les jésuites ou chez les... Bon. Aujourd'hui, vous vous rendez compte que tout le monde essaye de mettre ses enfants dans les écoles privées.
Tout le monde.
Eh bien, ce qui se passera pour votre épargne, c'est qu'il y a 30 ans, 40 ans, vous pouviez faire votre épargne vous-même ou la faire par l'État, ça allait à peu près. Aujourd'hui, il faut que vous passiez dans l'école privée.
Tout à fait. C'est une excellente comparaison. Je voudrais quand même terminer cette émission en parlant une petite minute de l'Université de l'Épargne. Voilà, vous pouvez quitter la vidéo si jamais vraiment ça vous intéresse pas. Mais je vais faire un peu de réclame quand même. Donc déjà, quel que soit votre profil, vous pouvez vous abonner à l'Université de l'Épargne. On a absolument de tout. Hein. On a des étudiants, on a des retraités, on a des gens qui n'ont jamais acheté une action de leur vie, on a des gens qui sont conseillers en gestion de patrimoine. Donc, on a vraiment de tout. Donc déjà, il s'agit d'une communauté de 8000 personnes, des investisseurs débutants comme chevronnés et passionnés qui s'échangent plein d'informations, de questions, de réponses. J'y participe moi-même, Emmanuel y participe, on aimerait même y participer encore plus. On a des super abonnés d'ailleurs qui discutent beaucoup là-dessus. En plus de ça, on va avoir dans les prochaines semaines un chatbot Charles Gave qui prend comme base de données les livres, les articles de l'Institut des Libertés, les vidéos, etc. et qui sera capable de répondre à tout un tas de questions.
Comme si c'était moi.
Voilà, comme si c'était vous.
Ce qui est rigolo, j'attends ça avec impatience parce
que il est presque prêt.
J'ai peur de dire des bêtises.
Non, mais on l'a conçu pour qu'il soit quand même très prudent, mais voilà, il sera disponible dans quelques semaines. Nous avons des dizaines et des dizaines d'heures de formation en vidéo, y compris sur comment remplir sa déclaration fiscale, par exemple, avec un degré de précision vraiment extrême, chose très utile en cette période déclarative. C'est jusqu'à mi-juin, je crois, qu'on peut déclarer ses impôts en ce moment. Nous avons deux vidéos supplémentaires par semaine, une avec Charles Emmanuel, une avec Charles et moi, sur l'actualité économique, financière, sur le comportement de notre portefeuille de référence, sur des foires aux questions, etc. Nous avons des documents, comment investir quand on débute, comment fonctionnent les ETF, le livre de Charles, Cessez de vous faire avoir, avec un document complémentaire sur l'usage des 4 cadrans qui détermine en fait la matrice centrale de la construction de portefeuille. J'ai fait moi-même un cours de 40 pages sur les obligations, comment comprendre les obligations, comprendre comment ça fonctionne, comment les valoriser, etc. Il y a aussi des QCM disponibles sur le site à la fin de ces documents, lorsque vous les avez terminés, pour évaluer vos connaissances. Des documents sectoriels aussi. J'avais fait il y a quelques mois un document sur la robotique. On va en faire un bientôt sur l'industrie pétrolière. Nous en avons un aussi sur comment s'exposer aux obligations brésiliennes lorsqu'on est un individuel français. Nous avons des fiches aussi sur les différents courtiers. On en a référencé 14 pour savoir quels sont les frais, quels sont les produits disponibles, quel est le service client, etc. Dans nos outils, nous avons un atlas macro-financier qui montre la performance de notre portefeuille en direct, une base de données d'ETF aussi, le calcul des intérêts composés, le calcul du rebalancement, ainsi qu'un lexique interactif. Donc, comme j'ai dit, on s'apprête aussi à rendre disponible donc une IA Charles Gave qui va vous répondre à partir d'une base de données. Et puis, nous avons aussi d'autres grands travaux à entreprendre encore, mais nous sommes déjà très fiers de ce service qui, j'ai fortement l'impression, ravit nos abonnés. En tout cas, ils sont tous là à nous remercier en permanence. Donc voilà, oui, si ça vous intéresse...
L'esprit, si vous voulez, quand derrière ça, c'est quand même un truc un peu curieux, c'est que nous nous sentons une responsabilité. Je veux dire par là, c'est que moi, j'ai été dans les problèmes d'épargne toute ma vie, de gestion de fonds, etc. Et je suis arrivé à mon âge et je me suis rendu compte que, dans le fond, j'avais beaucoup servi les gens qui avaient beaucoup d'argent, parce que c'est eux qui me payaient. J'étais très content. Et puis je suis arrivé donc à un âge avancé, je me suis dit, mais dans le fond, il y a toute une série de gens qui pourraient bénéficier de mes conseils. Mais il y a 30 ou 40 ans, c'était pas possible, il n'y avait pas d'instrument pour toucher la masse. Mais aujourd'hui, entre YouTube et tout, on peut toucher la masse, couvrir nos frais avec des abonnements très faibles et vous offrir ce que, dans le fond, était disponible pour les richissimes il y a 30 ans, quoi.
Ouais.
C'est donc, il y a donc une espèce de progrès dans l'accessibilité à la finance qui est phénoménale, qui s'est passée dans les 30 dernières années. Et tout ce qu'on essaye de faire, c'est de vous dire, il faut que vous y alliez, parce que d'abord, ça vous rendra plus intelligent, puis vous cesserez de vous emmerder pendant les week-ends, parce que vous irez voir ce qui se passe, et puis vous poserez des questions, ça vous amusera, parce que c'est très amusant, mm-hmm. C'est très vivant, ça n'arrête pas de bouger. Et puis surtout, ça vous permet d'incorporer votre avenir dans votre présent, quoi. Donc, pour moi, c'est pas... Il se trouve que l'Université de l'Épargne garde de l'argent, ce qui nous permet de faire des investissements. On est très contents. Mais le but, ce n'était pas de gagner de l'argent, c'était une diffusion de la connaissance, qui est possible aujourd'hui.
Ouais.
Ça paraît... Mais on a le droit de chier dans le service.
Oui, on a le droit de chier dans le service. Et jusque-là, j'ai l'impression qu'on le rend plutôt bien. L'idée centrale, c'est vraiment l'éducation financière, apprendre... Comment tout ça fonctionne, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui savent littéralement pas, quand on leur dit il faut acheter des actions air liquide, ils savent pas matériellement comment faire. Donc c'est notre rôle.
Si on leur dit quand les taux d'intérêt montent, les obligations baissent,
oui.
Ils ont un grand moment de solitude.
Oui, c'est ça, exactement. bref, il y a plein de trucs comme ça où parfois on peut aller un petit peu vite, mais justement, là c'est vraiment du contenu formalisé pour essayer de reprendre tout de zéro. C'est comment allumer son unité centrale, aller sur Internet Explorer, taper machin chose. Bref, c'est vraiment comment apprendre à se faire un compte sur un courtier, comment choisir son courtier, des choses comme ça. Enfin bref, on essaye vraiment de vous accompagner du mieux possible. C'est pas un accompagnement personnalisé, mais c'est une sorte d'accompagnement généralisé. On essaye de s'adapter voilà. un petit peu
et
à
là,
tout le monde.
Et là, il y a autre chose qu'il faut dire, c'est les courtiers qu'on a choisis, ce sont des courtiers qui sont en général assez efficaces. Donc, vous serez au courant des frais qu'ils vont prendre sur votre portefeuille en temps réel. Mmh. C'est-à-dire qu'ils vont prendre 0 à 1% par là, etc. Quand vous allez dans votre banque, vous vous rendez compte qu'ils vous prennent entre 3 et 4% par an de frais que vous ne voyez jamais.
Oui.
Donc, il y a aussi autre chose qui se passe, c'est que si vous laissez ça dans votre banque du coin, d'abord, ils vous mettront des produits qui sont dégueulasses, mais ensuite, vous n'imaginez pas les frais qu'ils vous prennent sans jamais les déclarer.
Bien sûr.
Donc vous vous dites, après 5 ans, je n'ai pas gagné un rond. Oui, mais eux, ils ont gagné beaucoup d'argent. Ouais. Donc c'est une façon aussi d'enlever l'épargne à ceux qui, dans le fond, la pillent pour vous en rendre le...
Tout à fait. Ça peut s'expliquer par le fait que chez les banques, il y a énormément de frictions administratives pour en sortir. Ce qui fait qu'ils peuvent pratiquer des frais complètement ignobles sur vous parce qu'ils savent que, de toute façon, vous allez peut-être râler un jour, mais... Vous n'allez pas passer de la Société Générale à LCL ou au Crédit du Nord ou je ne sais quoi.
Non.
Je ne veux pas citer de banque en particulier, mais voilà. Mais en revanche, chez les courtiers, c'est un univers extrêmement concurrentiel. Il y a beaucoup de gens qui ont un compte sur un courtier, mais ils ont un compte sur un autre courtier aussi. Et du coup, ils sont dans une concurrence permanente pour essayer d'avoir les frais les plus bas possibles. C'est un argument de vente énorme pour eux. Donc, ils savent très bien que s'ils commencent à vous enfler beaucoup trop, vous allez aller au truc d'à côté. Donc, ils peuvent pas se le permettre. Donc, effectivement... Vous constituez exactement le même portefeuille sur votre banque classique et sur un courtier qui sera très concurrentiel, ça ne va pas représenter du tout la même chose derrière en termes de frais et donc en termes de performance.
Ça fera 2 ou 3% d'écart par an.
Ouais, ça peut vraiment parce que il y a les frais de change, il y a les frais de garde, etc. Il y a plein de trucs en fait qui n'existent quasiment pas chez les courtiers. En général, les frais de garde, ça n'existe plus. Il y a juste les frais d'opération. Il faut vérifier les spreads. Et puis derrière, vous avez des frais de change, mais qui sont pas particulièrement élevés en général. Donc voilà, c'est vraiment un univers.
Donc vous avez votre épargne dans ce qu'on pourrait appeler un oligopole. C'était le système bancaire qui vous tondait habilement. Et là, on vous dit, il y a pour toute une série de raisons, il faut transférer la conservation de votre épargne de cet oligopole à un système concurrentiel.
Ouais.
Parce que là, vous allez économiser 2 ou 3% par an. Et 2 ou 3% par an sur 30 ans, ben je vous assure, ça fait des grosses sommes.
Ouais, bien sûr. C'est ça. Donc, vous allez être en capacité d'arbitrer, je sais pas, entre XTB, Trade Republic et Interactive Brokers, par exemple, pour citer trois parmi les plus gros courtiers disponibles en France. Et ces courtiers savent qu'ils sont en concurrence permanente. Donc, vous pouvez jongler de l'un à l'autre assez facilement.
Et quand vous ouvrirez votre ordinateur, vous serez sur XTB ou sur Interactive Broker et vous verrez votre portefeuille en temps réel. Tandis que quand vous êtes à la banque, ils vous envoient un papier une fois tous les mois ou une fois tous les 3 mois en disant donc voilà les chefs, vous comprenez rien au papier, vous savez pas comment le lire. Donc c'est, je ne crois pas une seconde que les gens, c'est dur d'apprendre quelque chose de nouveau, ça va être très dur, etc., mais en même temps c'est très poilant et vous en serez meilleur à la fin. Donc c'est un outil d'amélioration individuelle.
Complètement. Voilà, donc on est très fiers d'avoir fait ça. On a commencé il y a à peu près 2 ans. Et franchement, on est très contents. Déjà, on est contents de nos résultats du portefeuille aussi. Il faut dire qu'on a un portefeuille de référence, que vous êtes libre de suivre ou pas. Il y en a qui suivent une partie du portefeuille, pas tout. Enfin bref, même là-dessus, on a des bonnes performances, donc on est contents. Mais surtout, on est contents de la communauté qu'on a créée, des connaissances qu'on a transmises, etc. Et ça, c'est vraiment le plus important. Donc, si vraiment ça vous intéresse, eh bien, nous avons en permanence le lien pour s'inscrire sur l'Université de l'Épargne dans la description de la vidéo YouTube. Et sur ce, eh bien, je vais vous laisser peut-être à votre réflexion personnelle pour savoir s'il faut vous inscrire ou non. Et je vais vous dire à très bientôt, un grand merci et à très bientôt pour de nouvelles aventures sur l'Institut des Libertés.
Merci beaucoup.